Collège public CADES, bonjour.
La leçon d'aujourd'hui, parabole du semeur, deuxième partie.
Donc nous étions dans Marc hier, Marc au chapitre 4. Nous avions donc regardé deux sols. Le premier sol, c'est celui dont il est dit que c'est le long du chemin, là où les épines tombent, où le sol est dur, où la parole ne rentre pas parce que la personne ne comprend pas finalement ce que les choses sont dites. Le deuxième type de sol, qui représente le deuxième cœur, eh bien, ce sont l'endroit avec des cailloux où il y a peu de racines, où c'est difficile pour les racines de pousser. Ça pousse, mais ça pousse sans beaucoup de racines. Mais dès que la tribulation, les difficultés, la persécution à cause de la parole viennent, alors là, ça finit mal, malheureusement. Et je vais juste rajouter quelques petites informations à ce sujet-là, au sujet de la persécution, au sujet de la parole. Et la tendance naturelle de chacun de nous, et c'est normal, c'est de ne pas désirer et de ne pas aimer la persécution. Vous savez qu'on a été fait à l'image de Dieu. Et c'est pour ça qu'on réagit aussi d'une certaine manière à telle ou telle chose. Nous avons été faits à l'image de Dieu et...
Vous avez remarqué par exemple qu'un être humain, de manière générale, saisit facilement le concept qu'il n'est pas fait pour être un esclave.
Mais qu'il est fait pour la liberté.
C'est quelque chose qui est intrinsèque dans le cœur. Et ça, ça nous vient de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un esclave, Dieu est maître. Et il nous a fait à son image.
Et de la même manière...
Nous ne sommes pas faits, nous n'avons pas été fabriqués pour être persécutés.
Mais la persécution, elle existe. Donc
forcément, on va, de manière naturelle, tout faire pour éviter cette persécution.
Mais la difficulté, c'est que la parole a une puissance. Et des fois, dire la parole, dire à quelqu'un une vérité...
Une vérité qui vient de Jésus lui-même. Et je parle bien de la vraie vérité, parce que bien évidemment, on peut citer la parole et mettre des doctrines derrière qui sont fausses et faire du mal aux gens. Mais là, je prends un cas d'école où effectivement, on va apporter une véritable parole qui vient du Seigneur, comme il est dit par rapport aux prophéties qui sont là pour exhorter, édifier, consoler. Donc une parole qui va donner la vérité dans le cœur, et on sait que si on dit cette vérité, l'autre risque d'être choqué.
Bien. Il est juste de dire que si la parole doit choquer, eh bien, il faut qu'elle choque.
Ce ne serait pas juste pour nous, parce qu'on sait que ça risque de mal être interprété.
De ne pas le dire, ou de le diluer. Jésus ne s'est pas privé avec les pharisiens de leur dire ce qu'ils avaient à entendre. Il fallait, quelque part, qu'ils entendent cette chose-là. Et je dirais même, si on n'ose pas dire la vérité, alors, je ne dis pas forcément, il faut aussi user de sagesse, bien évidemment, vous comprenez ce que je veux dire. Mais si on retient la vérité, quelque part, on va nous-mêmes priver la personne à qui on parle de l'honneur de rejeter lui-même la parole de Dieu, et on va la rejeter nous-mêmes à sa place, en ne lui disant pas. Vous voyez jusqu'où ça va? Voilà. Finalement, on ne lui laisse pas l'opportunité et la liberté de lui-même faire son propre choix. On fait le choix pour lui, à cause de notre propre confort. Parce que moi, je sais que je risque d'être persécuté, je préfère me taire et qu'ils n'entendent pas la vérité, qu'ils ne la rejettent pas, et donc qu'ils ne me rejettent pas moi, parce que finalement, ce qui m'importe, c'est moi. Mais il faut qu'on arrive à passer un stade. Et je ne suis pas en train de donner des leçons. En disant ça, je parle aussi à moi-même et à chacun de nous, parce que c'est quelque chose qui est difficile.
Il faut qu'on arrive à ce stade où on comprend la puissance de la vérité, la puissance de la parole.
Il faut aussi que ce soit mêlé de sagesse, il faut que ce soit... conduit par l'amour, il faut que ce soit le moment du Seigneur, bien évidemment. Mais quand c'est le moment...
On n'a pas le droit, à la place de quelqu'un d'autre, de rejeter cette parole.
S'il doit la rejeter, que ce soit lui qui le fasse. Ça, c'est important. D'ailleurs, regardez ce qui est écrit dans Lévitique, au chapitre 19, à partir du verset 17. « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. » Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce « tu aimeras ton prochain comme toi-même », on le connaît par cœur. Mais le début de ce passage, c'est aussi de dire, attention, si tu ne reprends pas ton frère, en fait, si tu ne le reprends pas, c'est que tu le hais, tu le haïs. Ça va fort, hein, quand même. Et donc, aimer son prochain, c'est aussi avoir le courage de lui dire la vérité, pas de lui dire ces quatre vérités, comme le monde dit. Hein. Ce n'est pas pour se défouler, c'est pour aider l'autre. C'est vraiment poussé par la compassion. C'est vraiment parce qu'on sait que c'est la vérité qui libère. Dans Marc au chapitre 7, à partir du verset 8, il s'agit de
Jésus qui reprend les pharisiens. Il leur dit « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore « Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Ça, c'est quelque chose que vous faites très très facilement. « Car Moïse a dit « Honore ton père et ta mère » et « Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites « Si un homme dit à son père ou à sa mère « Ceux dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. » T'es en train de dire... Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que les pharisiens, là, se pensaient, croyaient tellement spirituels que l'argent qu'ils avaient, ils préféraient le donner à Dieu plutôt que de le donner pour aider leurs parents, leurs propres parents. Et Jésus est en train de les reprendre en disant, vous faites les choses à l'envers. En fait, vous avez mis une tradition qui vient de chez vous. Vous avez vous-même décidé cette loi qui, a priori, au premier abord, quand on est bien religieux, paraît super. Dieu d'abord. Tout mon argent, c'est pour Dieu. Et Jésus est en train de dire, si tu n'honores pas ton père et ta mère, tu es à côté de la plaque. Tu as raté le but de la loi, tu as raté le but même de l'évangile, de la bonne nouvelle qui apporte, qui fait du bien aux autres. Et le verset 13 nous dit, en faisant ça donc, vous annulez la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Vous rendez nulle la parole de Dieu. C'est-à-dire, il y a une parole, et vous savez que la parole c'est cette semence, c'est cette graine. Eh bien, les traditions des hommes, la manière de penser, vont aussi annuler la puissance de la parole. C'est comme du round-up. Je ne sais pas si c'est le bon, si c'est un bon exemple, mais c'est un peu simple. Voilà, par exemple, je vais prier pour quelqu'un. Je vais prier pour quelqu'un pour sa guérison. Mais j'ai une doctrine qui croit que parce que cette personne a un péché, il ne peut pas être guéri. Ça va annuler la parole de guérison, parce que ma doctrine va passer au-dessus du commandement de Dieu, au-dessus de l'ordre de Dieu. C'est exactement ce que dit Jésus là. Et là, pourquoi j'ai lu ce passage qui nous montre qu'effectivement, il y a une possibilité d'annuler la parole de Dieu, de rendre cette parole sans effet, eh bien, c'est parce que ce qui était important pour les pharisiens, c'était pas spécialement ce que Dieu pensait de leur argent quand ils faisaient corban. C'était ce que les autres voyaient de ce que eux faisaient de leur argent. Voyez, moi, je suis prêt à donner de l'argent à la synagogue plutôt qu'à mes parents. Voyez le sacrifice que je fais. En fait, au fond de leur cœur, ce qui les intéressait, ce n'était pas ce que Dieu pensait d'eux, mais c'était ce que les hommes pensaient d'eux. Et la question, et là, vraiment, c'est important pour nous, on voit ça dans Jean, au chapitre 2, c'est de se dire, de qui est-on dépendant? Est-ce qu'on va être dépendant des hommes? Est-ce que le regard des hommes sur nous va être quelque chose qui va diriger notre vie ou pas? Si c'est le cas, nous sommes malheureux. Si c'est le regard de Dieu sur nous qui compte, alors nous sommes heureux, nous sommes bénis. Jean au chapitre 2 et au verset 23-25. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Qu'est-ce que veut dire ce verset? Ce verset veut dire Jésus considérait que son ministère était une réussite, non pas parce que les hommes lui disaient que c'était bien, mais parce qu'il savait qu'il faisait la volonté de son Père. C'était pas parce qu'il y avait des miracles et que les hommes disaient « c'est super ce que tu fais » que c'était super. Jésus lui-même, et il nous montre cet exemple pour nous-mêmes, il n'a pas besoin que les hommes confirment que c'était juste, il fallait que son père confirme que c'était juste ce qu'il faisait. Il ne voulait pas confier son espoir, confier son ministère au regard des hommes. D'ailleurs, remarquez, on voit très bien que juste avant sa crucifixion, Jésus est rentré dans Jérusalem au son des Maranatha, et trois jours après, ou quelques jours après, c'était crucifié. Donc, on ne peut pas se confier en l'homme, on ne peut pas s'appuyer sur ce que disent les hommes pour considérer que tout est juste. On va considérer que c'est juste à partir du moment où Dieu dit que c'est juste. Et on va vouloir agir en fonction de la parole que Dieu nous dit et que Dieu sème en nous et que nous plantons dans notre cœur. Proverbe 29, 25, nous dit « La crainte des hommes tend un piège. » Si tu agis en craignant la réaction des hommes, tu tombes dans un piège. Mais ça vient vite, hein? Pourquoi je parle de ce sol-là? Ce sol qui n'a pas beaucoup de racines, c'est exactement ça. À cause de la persécution qui vient par la parole, eh bien, il porte pas de fruits. Pourquoi? Parce qu'il a craint la persécution. Comment elle vient, la persécution? Et par les hommes à qui on a dit la parole, tout simplement. Donc, la crainte de l'homme, c'est un piège. Et il faut qu'on arrive, chacun de nous, à passer outre cette crainte de l'homme. À considérer qu'il y a la vérité des hommes, mais que la vérité de Dieu est supérieure, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est avec des œillères et qu'on n'écoute rien ni personne. Ce n'est pas vrai. C'est juste d'écouter ce que disent les hommes, parce que le Saint-Esprit se sert aussi des frères et sœurs. Mais il est juste d'écouter d'abord ce que dit Dieu, puis ensuite ce que disent les gens autour de nous. Il y a un ordre. Donc, voilà, ça c'était juste pour terminer par rapport à la persécution. Nous passons donc maintenant au troisième sol, Marc 4, à partir du verset 18. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. La rendent infructueuse. Alors, si vous prenez le passage parallèle qui est dans Luc, au chapitre 8, au verset 14, il est parlé de fruits qui ne parviennent pas à maturité. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Donc là, il n'est pas question de gens qui ne portent pas du tout de fruits. Il est question de gens qui portent du fruit, mais pas à maturité. Il y a un début, il y a un commencement, mais il manque quelque chose, ça ne va pas au bout. J'oserais dire, c'est encore un peu acide. Le fruit n'est pas encore mûr. Il y a quelque chose qui s'est produit, il y a une progression, il y a un mieux. D'ailleurs, on va le voir tout à l'heure, mais ces sols sont vraiment, je pense, une progression et dans chacune de nos vies. Là, il y a un mieux. Mais pour l'instant, c'est encore infructueux ou ça ne porte pas le fruit qu'on voudrait voir. Et pourquoi? Eh bien, voilà, là, la raison est simple. Ce sont les soucis du siècle, la séduction des richesses et les autres convoitises. Vous savez que, et si je reprends l'exemple agricole, eh bien, on a beaucoup de vignes par chez nous. On peut voir facilement les vignes dont les propriétaires s'occupent et les vignes dont les propriétaires ne s'occupent pas. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses qui vont pousser, d'épines, de ronces, de ce que vous voulez qui vont pousser dans les vignes dont on ne s'occupe pas. Par contre, celles pour lesquelles on s'occupe, en général, elles sont propres. Des fois, il n'y a rien du tout. D'autres fois, il peut y avoir un petit peu d'herbe. Mais en général, c'est quelque chose qui est maîtrisé, qui est propre. Il n'y a pas dans ce sol, finalement, d'autres plantes qui va prendre les nutriments, qui va prendre l'humidité, qui va prendre tout ce dont la véritable plante qui a été mise là dans un but précis, qui va donc pas prendre les nutriments à la place de l'autre plante. C'est-à-dire que dans notre cœur, on va mettre une parole qui vient du Seigneur, elle va pousser, mais il faut être vigilant qu'il n'y ait pas d'autres paroles qui, elles-mêmes, saisissent finalement ce qui est dans le cœur, la capacité du cœur à produire pour grandir elle et finalement empêcher la véritable plante de bien pousser. Lorsque on veut avoir des fruits plus gros, eh bien on va effectivement retirer les mauvaises herbes, on va nourrir la plante, on va s'en occuper, on va faire en sorte en général qu'il n'y ait qu'une seule plante d'ailleurs. Qu'une seule plante, sinon elles se font concurrence entre elles. Eh bien, en ce qui nous concerne, nous, et par rapport à ces versets, à cette parabole, eh bien, rappelez-vous qu'une fois de plus, la parole a une puissance et le diable essaie d'enlever la parole. Eh bien, également dans ce troisième sol, le diable va essayer de nous occuper avec les choses du monde, nous occuper avec d'autres choses que la parole. Parce que, et c'est ça que Jésus appelle plutôt, les soucis du siècle. Les soucis du siècle, ce n'est pas forcément commettre des péchés. Les soucis du siècle, ça peut simplement être, et ça va simplement être, s'occuper des choses de la vie de tous les jours. Regardez ce que dit d'ailleurs Jésus dans Matthieu 6, il nous dit « Vous devez chercher premièrement le royaume de Dieu, toutes les choses vous viendront par-dessus. » Qu'est-ce qui vient par-dessus ? Eh bien, il parlait en fait du vêtement et de la nourriture, c'est des choses tout à fait logiques. Mais si toutes nos pensées sont dans « qu'est-ce que je vais faire pour vivre ? Est-ce que demain j'arriverai à faire mes courses ? Est-ce que, etc. etc. » qui sont légitimes, ce sont des choses légitimes, mais si ça prend la priorité, ça devient des soucis du siècle. C'est tout ce qui va être pour nous une distraction vis-à-vis de la parole de Dieu. Tout ce qui va vouloir prendre du temps dans notre vie, au dépens du temps passé avec le Seigneur. Au dépens du temps à s'occuper de cette plante. Imaginez que vous ayez chez vous, ma fille Rebecca, elle a plein de cactus, elle s'en occupe. Si elle passe 3 semaines à faire autre chose que s'occuper des cactus, à un moment donné, ils vont mourir. Parce que les siens sont un peu fragiles. Hein, mais voilà, peu importe, vous comprenez l'image. Si vous avez une belle plante, voilà, il faut s'en occuper tous les jours. Si d'un coup vous dites, ah ben tiens, j'aimerais m'intéresser à faire de la voile un peu, et puis tiens, je vais passer un peu de temps aussi avec tel ou tel hobby. Il n'y a que 24 heures dans une journée. À un moment donné, eh bien, quelque chose sera négligé. Et c'est là qu'il faut faire des choix. Les soucis du siècle, c'est se dire maintenant, je dois m'occuper de cette parole qui a été semée dans mon cœur. Je dois en prendre soin. Qu'est-ce que je vais maintenant pouvoir réduire dans ma vie comme temps, ou trouver du temps, où est-ce que je vais pouvoir trouver du temps pour pouvoir m'occuper de cette semence qui est plantée dans mon cœur. D'ailleurs, pour ça que c'est écrit, rachetez le temps. Parce que le temps est important. Parce que le temps va finalement être ces épines qui vont monter autour de la parole et l'étouffer, et la rendre infructueuse. Ça va porter beaucoup moins de fruits que ce que ça devrait. Pour autant, là, on est dans une situation de gens qui ont des racines. On n'est plus dans le deuxième sol. On est dans la situation de gens qui ont des racines. Et tout est là pour que ça pousse. Sauf que, eh bien, peut-être que c'est négligé. Voilà. On parle ensuite de séduction des richesses. Ben là, vous savez exactement ce que ça veut dire aussi. Pour moi, séduction des richesses, ça veut dire que... ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas qu'on ait de l'argent. La séduction des richesses, c'est de mettre une valeur dans les richesses qui n'est pas juste. C'est de dire... Si j'ai plus d'argent, alors je serai plus heureux. C'est de dire, si j'ai plus d'argent, eh bien, je n'aurai pas de problème dans l'avenir. C'est ce que font les gens, ils vont acheter des assurances vie, ils vont mettre de l'argent de côté comme étant leur source. Or, notre source doit être en Christ. Ça a été mal compris par beaucoup de religieux qui ont dit, il faut faire vœu de pauvreté, ça n'a rien à voir. Au contraire, d'ailleurs, le Seigneur veut nous bénir dans tous les domaines pour qu'on puisse bénir autour de nous. Mais ce qui est important, c'est de dire, comment est-ce que je traite l'argent dans ma vie ? Est-ce que je suis le maître de l'argent ou est-ce que l'argent est mon maître ? Est-ce que toute ma vie, je la passe finalement à devoir gagner de l'argent ? Dans ce cas-là, si tout mon emploi du temps est géré par l'argent, alors l'argent est mon maître. Et puisque nous sommes ici, c'est aussi parce que nous voulons répondre à l'appel du Seigneur dans nos vies. Donc là aussi, il y a un point que j'aimerais souligner qui est important, et sur lequel je travaille moi-même en ce moment beaucoup, c'est le temps passé pour ce qu'on appelle le ministère. Est-ce que vous savez que le ministère peut tuer quelqu'un ? Vous savez que... Enfin bon, je ne connais pas exactement les chiffres, mais j'ai entendu dire qu'il y a 80% des personnes qui se lancent dans le ministère qui, au bout de 5 ans, ont abandonné. Et sur les 20% qui restent, il y a 80% qui font le burn-out après. Donc en gros... Il n'y a que 4% des serviteurs de Dieu qui s'en sortent, entre guillemets.
Qu'est-ce que c'est un burn-out ?
Un burn-out, c'est aller au-delà des limites du corps. C'est-à-dire, à un moment donné, ton corps ne suit plus, ta pensée ne suit plus, tu tombes en dépression, tu ne peux plus rien faire. C'est un épuisement moral et physique très fort. Et il faut être vigilant là-dessus. Ça veut dire que même dans le fait de pouvoir aller aider l'autre, de pouvoir passer du temps avec l'autre, il y a pour chacun de nous... à prendre soin de nous-mêmes aussi. C'est pour cette raison que Jésus lui-même disait à ses disciples, venez, vous êtes fatigué, nous sommes fatigués, je pense, on va se retirer un petit peu dans le désert. Bon, il se trouve que souvent il se faisait poursuivre quand même, mais l'idée était là, il voulait quand même le faire. Il allait lui-même d'ailleurs passer la nuit en prière avec son père, parce qu'il fallait à un moment donné recharger les batteries. Si on passe sans arrêt du temps à donner, à un moment donné on n'a plus, parce qu'on ne peut donner que ce qu'on reçoit. Donc il faut à un moment donné recevoir, et il faut recevoir le plus souvent possible. Et c'est pour ça aussi, j'en suis persuadé, que le Seigneur a instauré le sabbat dans sa loi. Le sabbat est au service de l'homme. Le sabbat est là pour servir l'homme, donc en fait pour que l'homme puisse à un moment donné se forcer à prendre du temps pour, entre lui et Dieu. Juste prendre du temps entre lui et Dieu. Alors, il faut bien comprendre que la loi telle qu'elle est donnée mosaïque, elle est une ombre des choses à venir, elle est une image, la réalité est bien plus belle. Mais si vous voyez la véritable loi, ça va très loin. C'est vraiment, tu fais rien du tout, du tout. Tu dois même pas trop marcher, tu fais pas grand-chose, vraiment. Et si c'est vrai d'un point de vue de la loi mosaïque, spirituellement, il y a une vérité aussi. Alors, bien sûr, il est parlé du vrai sabbat, le vrai repos qui est éternel pour nous, mais je crois qu'il y a aussi une vérité physique pour nous. Donc ça, c'est aussi important quand chacun de vous, vous serez amené justement à apporter aux autres ce que vous avez reçu. À prendre aussi du temps, toujours prendre du temps, gagner du temps entre Dieu et vous pour ne pas justement être épuisé, pour ne pas tomber, parce que c'est très difficile de dire non à quelqu'un quand quelqu'un a un besoin. Et ça amène souvent des conflits, ça amène des difficultés. Il faut avoir le courage de le faire et il faut aussi amener les autres à comprendre que oui, il y a besoin. J'ai entendu justement dans ce cas précis où quelqu'un, un serviteur de Dieu, avait dit à une dame qui lui réclamait sans arrêt la prière, et à un moment donné il a dit non, là ça suffit, maintenant là j'ai besoin d'un temps pour moi, il me faut mon temps pour moi. Et elle lui a répondu, oui mais le diable il prend pas de temps pour lui, le diable 24 heures sur 24 il agit. Et alors cet homme lui a répondu, et moi si j'agis 24 heures sur 24 je vais devenir comme le diable. Ce qui est pas faux aussi, à un moment donné tu peux plus. Donc les soucis de la vie, la séduction des richesses, l'invasion des convoitises, il n'y a pas que des choses liées au péché. Bien évidemment, je ne vais pas m'étendre là-dessus, vous l'avez compris. Quand c'est des choses néfastes, évidemment, ça touche la parole. Mais pour nous, puisqu'on est là et qu'on est décidé, en tant que collège, à vouloir vraiment servir le Seigneur, je veux plutôt insister sur ces points-là, sur des choses qui sont tout à fait justes, tout à fait bonnes, mais préserver du temps. Préserver du temps pour le Seigneur. Regardez d'ailleurs ce qui est écrit, ce que Paul nous écrit dans Philippiens, au chapitre 3. Au verset 13, il dit « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. » Saisi quoi ? Saisi le prix, saisi la perfection. « Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus. » Et le point sur lequel je veux insister, donc Philippiens 3, 13, c'est « Paul dit, je fais une chose. » C'est « Je fais une seule chose. » Je ne peux pas courir deux lièvres à la fois. Il n'est pas possible, et ça je peux vous en parler vraiment à titre d'expérience, c'est très difficile de gérer beaucoup de choses en même temps. S'occuper de son entreprise, de sa famille, de l'église, du collège, de plein de choses, c'est très compliqué. Et plus on fait de choses, moins on les fait bien. C'est le problème. C'est pour ça que Paul dit, moi j'ai un but. Et ce but, c'est je cours vers la vocation, c'est-à-dire vers ceux pourquoi je suis appelé. Et c'est ça qui m'intéresse. Le reste, eh bien ça suivra. Le reste, c'est autre chose. Maintenant, on a vu que ces quatre sols, il est possible que ce soit une progression par laquelle on passe tous. C'est-à-dire que ce premier sol, c'est on ne comprend pas. Et il y a encore peut-être pas mal de domaines où, effectivement, on ne comprend pas. Ce domaine-là, j'y connais rien, je comprends rien. Effectivement, là, eh bien, il faut aller plus loin. Il faut, et ça, c'est une grâce que le Seigneur nous a fait, de nous donner le Saint-Esprit. Il faut puiser dans le Saint-Esprit pour pouvoir comprendre ce que le Seigneur voulait dire. Mais une fois qu'on a compris les choses, on peut arriver au deuxième stade où finalement, on est prêt à le dire, mais on n'est pas encore bien ferme. Et on a peur un petit peu de la persécution. Ça m'est arrivé plein de fois, et ça m'est arrivé en particulier quand j'ai commencé à comprendre des choses liées à la guérison. Et là, je me dis, mince, mais comment est-ce que l'autre va réagir si je lui dis que, en fait, il est guéri en Jésus, alors que je sais que c'est un point sensible pour lui et je risque de me faire jeter? Comment est-ce que je vais oser dire que Jésus est amour alors qu'il vient de perdre son enfant? J'ai un peu peur de cette persécution. Et ça peut être une étape aussi dans notre vie. Mm-hmm. Mais c'est au fur et à mesure où on a des racines et on sait que oui, Dieu est amour, alors on peut le dire avec confiance et avec certitude. Les remarques que les autres nous feront ne vont pas nous déstabiliser à chaque fois. Ça, c'est important. Le troisième, donc, c'est de faire attention à ne pas gaspiller son temps, de ne pas se rajouter des choses en plus, de ne pas être trop occupé par le monde et quoi que ce soit. Et donc là, une fois de plus, je ne parle même pas de choses qui sont mauvaises. Je parle de choses qui sont justes et qui sont bonnes. Mais même la famille peut être plus que ce qu'il ne faut. Ça peut arriver aussi. Il faut être vigilant aussi à ne pas se faire manger par la famille. Il faut trouver en chaque chose le bon équilibre. Et là, je ne dis pas que quand je parle de bon équilibre, ce ne serait pas juste de dire le ministère avant la famille. Ce n'est pas juste, parce qu'un véritable ministère a fait ses preuves dans sa famille. 2 Corinthiens 10, à partir du verset 4. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il y a un combat qui est un combat dans nos pensées. Et il ne faut pas être naïf à propos de ça. Et ce combat est un combat important. Il est dit, nous renversons les raisonnements. Les raisonnements, ça se passe dans les pensées. Et nous renversons aussi les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Contre la connaissance de Dieu, ça peut être une lutte directe, mais ça peut être des choses qui vont justement nous empêcher de connaître Dieu, comme perdre son temps. En fait, perdre son temps, c'est quelque chose qui va nous empêcher de rentrer dans la connaissance de Dieu. Et Paul dit, on veut s'élever contre ces choses-là. Le point central pour nous, ça doit être la parole de Dieu. Et je parle bien évidemment de la parole écrite, je parle aussi de la parole, Jésus fait la parole, de ce qu'il va nous dire, de ce que le Saint-Esprit nous dit, qui sont d'ailleurs toujours en accord. Et il faut aussi rester concentré sur ce sur quoi Dieu nous a appelés. Lorsque Dieu nous a appelés à faire quelque chose, il faut rester concentré là-dessus. Et l'appel de Dieu dans nos vies n'est pas le même pour tout le monde. Et heureusement d'ailleurs. Et il faut que cet appel soit différent pour chacun, parce qu'il faut que l'évangile aille partout. Et l'appel, par exemple, de quelqu'un qui va être à la famille et s'occuper de ses enfants est tout aussi valable que quelqu'un qui va aller prêcher à une grande foule. Tout aussi valable. Parce que chaque âme est importante. Et nous aussi, de comprendre l'appel de Dieu et de répondre à l'appel de Dieu. Il y a malheureusement des ministères qui ont mis tellement l'accent sur les autres que la famille se sent négligée. Et bien souvent, la famille laisse tomber après. Et ça, c'est triste. Il y a un ordre. Alors, dans sa grâce, le Seigneur peut envoyer d'autres personnes, mais l'ordre logique des choses, c'est que ce soit les parents qui s'occupent des enfants. Dernier point, c'était, il faut exercer notre cerveau comme on exerce un muscle. Alors, ça nous paraît peut-être pas forcément évident, mais nous avons tous la capacité de choisir ce sur quoi nos pensées sont focalisées. Je crois que c'est Kenneth Hagin qui donnait cet exemple et qui disait, bien évidemment, on ne peut pas empêcher un oiseau de tourner au-dessus de la tête. Par contre, on peut l'empêcher de faire son nid sur la tête. Ça veut dire, en fait, vous aurez toujours des pensées négatives qui vont venir, mais vous n'êtes pas obligé de les cultiver, ces pensées-là. Vous pouvez aussi les rejeter. Vous pouvez aussi dire non, je vais penser à autre chose que ça. Je vais refuser de jouer le jeu de la peur. Je vais refuser de jouer le jeu de la crainte. Je vais refuser de jouer le jeu de l'amertume. Je ne vais pas me focaliser sur ces choses-là. Et c'est un pas de foi. Et c'est un pas de foi qui est salutaire. Donc nous ne devons pas, d'une part, papillonner dans les pensées. Ça aussi, c'est perdre du temps. Bien souvent, on va papillonner et on ne va rien gagner de plus. Je ne sais pas si ça nous arrive des fois, mais on fait des plans sur la comète, on va s'imaginer une discussion qu'on va avoir avec quelqu'un dans une heure, On a fait 20 fois la discussion, 20 manières différentes, et puis quand on arrive, ça ne se passe pas du tout comme on avait pensé. J'ai remarqué que ça ne se passe jamais d'ailleurs comme on avait pensé. En fait, c'est toujours du temps de perdu. Moi, je l'ai fait pour moi-même comme un exercice. Volontairement, je m'interdis de penser des choses en avant dans ce genre de cas. Volontairement, je m'en interdis parce que j'ai remarqué que c'était toujours du temps de perdu. Et je préfère m'appuyer avec foi sur ce que le Seigneur dit, avec foi sur le fait qu'il dit par exemple, quand vous serez devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Saint-Esprit vous dira à ce moment-là. Sur des choses comme ça, le Saint-Esprit est là pour nous aider, pour nous consoler. À quoi ça sert? Par vos inquiétudes, vous ne pouvez pas rajouter une coudée à votre vie. Alors à quoi ça sert de s'inquiéter? Et ça fait partie de ces épines qui vont étouffer la parole, parce qu'elles vont prendre du temps, parce qu'en fait, dans cet espace qu'est notre cœur, elles vont tirer et subtiliser les nutriments, subtiliser l'humidité à la bonne parole de Dieu. Quelqu'un avait dit aussi, pour détruire la vision d'un homme, il suffit de lui en donner deux. Effectivement, tu ne peux pas courir deux lièvres à la fois. Donc pour nous, si on veut que la parole de Dieu qui est plantée dans nos cœurs porte du fruit, il faut se focaliser là-dessus. Vraiment en prendre soin et se dire, voilà, cette chose-là que le Seigneur m'a dite, ça peut être en lisant un passage, ça peut être en écoutant quelqu'un, ça peut être directement par le Saint-Esprit, mais ce que je viens de recevoir, je veux m'en occuper. Je veux l'arroser, je veux méditer là-dessus. Allez, on passe à la bonne terre. On revient à Marc 4. Marc 4, 8, qui nous dit « Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. » Ça, c'est Marc 4, 8. Et vous avez le même dans Marc 4, 20, qui nous dit « D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. » On l'avait vu hier, la bonne terre n'était pas une terre qui avait plus que les autres, c'était une terre qui avait moins que les autres. Moins de dureté, moins de pierres, moins d'épines. Et nous sommes tous capables dans notre vie d'avoir moins. Si on me disait, tu dois avoir plus, tu dois absolument passer 2 heures de prière chaque jour. Pour certaines personnes, ce serait difficile, voire même impossible. Mais si on dit plutôt, non, tu dois juste délaisser quelque chose. Ça, mets ça de côté. Occupe-toi juste de la parole. Ça, c'est faisable pour n'importe qui. L'autre point que nous avions vu, c'était que tout ce qui concerne nos capacités humaines, notre intelligence, notre talent, toutes ces choses-là ne sont pas en réalité ce dont nous avons besoin. Pour être une terre qui porte du bon fruit, on n'a pas besoin d'avoir spécialement des capacités, spécialement de l'intelligence, spécialement d'avoir du talent. Parce qu'une fois de plus, ça ne doit pas reposer sur nous. Dans Joël 3, 10, il est dit que le faible dise « je suis fort ». Que le faible dise « je suis fort ». Et c'est repris dans 2 Corinthiens 12, 10, où Paul lui-même dit « quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». C'est-à-dire que Paul, qui avait fait des études, qui était certainement brillant. D'ailleurs, le roi lui dit « ton grand savoir te fait déraisonner ». Ce même Paul-là dit « moi, en fait, non, je me vois faible. De ma propre nature humaine, je suis faible ». Et c'est à ce moment-là que Dieu agit. À ce moment-là que Dieu peut être fort. Tous les domaines où on va se sentir fort de nous-mêmes, on n'aura en réalité pas besoin de Dieu. Et Dieu n'interviendra donc pas. Dieu intervient là où on le laisse intervenir. Et si on se voit faible, alors on peut être fort à cause de lui. Regardez ce qui est écrit dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, à partir du verset 1er. C'est Paul, une fois de plus, qui parle et qui dit « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » Le but, ce n'est pas d'aller voir les gens en disant « j'ai un doctorat en théologie, maintenant tu vas écouter ce que j'ai à te dire ». Et pourtant, s'il y en avait un qui mériterait bien d'avoir un doctorat en théologie, c'est bien lui. Et il dit « quand je suis allé vers vous, ce n'était pas avec une supériorité de langage ». Verset 2 « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié ». C'est-à-dire le point central de ma prédication, c'est « Jésus lui-même est venu sur cette terre et sa mort à la croix a changé quelque chose pour nous. C'est ça son message. Et sa résurrection encore plus. Verset 3, il dit « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Vous voyez, c'est pas la peine d'être super fort, de se sentir super à l'aise. C'est la parole qui est puissante. Il faut simplement l'avoir reçue et la rendre, et la donner. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alors, ce passage-là ne veut pas forcément dire « Je suis venu avec vous, faisant des miracles, et parce que j'ai fait des miracles, vous avez cru. » Ça peut vouloir le dire, mais ce que je pense que ça veut dire, c'est ce qui est important, c'est que le véritable message de l'Évangile ne repose pas sur vous, il repose sur Dieu. Pourquoi ? Parce que avant, la loi disait « Tu fais le bien, tu seras béni. Tu fais le mal, tu seras maudit. » Tout reposait sur l'homme avant. Et la véritable puissance de l'Évangile, c'est de dire « Ça ne repose pas sur l'homme, ça repose sur Dieu. » Sur la puissance de Dieu. Mon discours, c'est la puissance de Dieu. C'est-à-dire, je ne vais pas te demander à toi de devenir une telle personne énorme qui sait tout faire, etc. Non. Ce qui compte, c'est la puissance de Dieu. Pas la puissance de l'homme. Ensuite, nous voyons toujours dans cette bonne terre que on est à la quatrième étape. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont compris la parole. Ce sont des gens qui n'ont pas eu peur de la persécution, qui sont restés fermes. Et ce sont des gens qui ont réussi à se focaliser sur la parole, qui ne sont pas bouffés par tout ce qui les environne autour d'eux, les soucis, l'argent, etc. On en est donc à la quatrième terre. Et dans cette quatrième terre, donc il a passé toutes les autres étapes, dans cette quatrième terre, on voit que même là, il y a 30, 60 et 100 grains. 100 fois pour un. Alors la question à se poser, c'est de se dire, et pourquoi il y a une différence ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire, ceux qui entendent la parole la reçoivent et portent du fruit, 100 pour un ? Je pense que ce que le Seigneur veut, c'est du 100 pour un. Or, ce verset est répété deux fois, Marc 4, 8 et Marc 4, 20, 30, 60, 100. Eh bien, ce qu'il faut se dire, c'est que la semence qui a été semée dans les sols est la même. Elle a le même potentiel. Donc ça ne vient pas de la semence, s'il y a 30, 60 ou 100. Si ça ne vient pas de la semence, ça vient de quoi ? Ça vient du sol, ça vient de la terre, bien évidemment. Je vais vous lire la version Martin du psaume 78 et du verset 41. Psaume 78, 41 nous dit et parle du peuple qui est dans le désert et qui dit « Coup sur coup, il tentait le Dieu fort et bornait le Saint d'Israël. » Bornait le Saint d'Israël. D'autres versions peuvent dire « Il limitait le Dieu d'Israël. » D'autres versions prennent une toute autre tournure, mais je pense que celle-ci est plutôt intéressante. Quand le peuple était dans le désert, quand ils se rebellaient contre Dieu, quand ils tentaient Dieu, ils ont borné, ils ont limité l'action de Dieu. En fait, c'est le sol, ce sont nos cœurs qui décident, plus ou moins consciemment, mais qui décident du rendement de la parole. À nous de vouloir le maximum dans nos vies. À nous de vouloir le maximum, mais il faut savoir que nous sommes aptes, malheureusement, à limiter Dieu. C'est nous qui fixons d'ailleurs les limites. Regardez d'ailleurs ce qu'a dit Jésus plusieurs fois. Il a dit « Qu'il te soit fait selon ta foi. » Selon ta foi. C'est ta foi qui va décider du résultat. C'est extraordinaire quand même de la part du Seigneur de dire ça. Regardez aussi ce qui s'est passé dans Marc 5, 28. Cette femme qui avait une perte de sang, elle a dit « Si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. » Est-ce que c'est Christ qui lui a dit « Si tu touches le bord de mon vêtement, tu seras guéri ?» Non. Est-ce qu'elle a lu ça quelque part, que si on touchait le bord du vêtement de quelqu'un, on serait guéri d'une perte de sang ? Peut-être que le Saint-Esprit lui a mis ça à cœur. Peut-être. En tout cas, c'est d'elle-même. Ce dont je suis persuadé, c'est qu'il est écrit que la femme se disait en son cœur. Elle avait médité là-dessus, elle s'était dit « Si je fais ça, alors je serai guéri. » Et donc c'est bien elle, quelque part, qui a fixé ce cadre. C'est d'autant plus vrai que Jésus lui-même a guéri cette femme sans s'en rendre compte, puisqu'il a dit « Une force est sortie de moi ». Qu'est-ce qui s'est passé? C'était en dehors de sa volonté directe. C'est bien la preuve que nous sommes artisans du résultat de la multiplication du fruit. 30, 60, 100. À nous d'élargir et notre compréhension et notre cœur pour que ce soit le plus possible. Ça m'est déjà arrivé de parler à des gens et après une réunion, une personne vient me dire « Ça a été vraiment bien ce que tu as dit, j'ai été libéré. C'est des paroles qui m'ont vraiment fait du bien. » Et la personne à côté, elle a dormi toute la réunion. Ça arrive, hein. Pourtant, j'ai dit les mêmes mots. J'ai pas dit deux phrases l'un pour l'une, l'autre pour l'autre. C'est la même parole, mais c'est pas le même cœur. Il y a la même puissance dedans. Mais la manière du cœur fait le nombre de fruits. La façon dont le cœur est prêt à recevoir fait le nombre de fruits. C'est une explication, c'est pas une doctrine non plus aussi. Mais vous remarquerez qu'il y a souvent des guérisons lorsqu'il y a des grandes, grandes réunions. Des guérisons visibles. Souvent ça se voit. Je pense personnellement que c'est parce que les gens préparent leur cœur et s'attendent à ce que le Seigneur intervienne là. Alors que, à contrario, ils vont dire, là on est trois personnes, trois pelés, avant que Dieu agisse. Et en fait, la puissance est la même. La parole est la même. L'onction de Dieu est la même. Mais c'est la manière dont nous préparons. Qu'il soit fait selon ta foi. On doit mettre une priorité dans nos vies pour que la parole de Dieu ne soit pas étouffée. Regardez ce que Paul dit à Timothée. 1 Timothée 4,15. Il lui dit, on va lire même les 13 d'ailleurs. « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Lecture, c'est lecture de l'Ancien Testament, lecture de ce qu'il avait de la Bible. « À la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Plus tu te donnes à la parole de Dieu, plus tes progrès seront évidents pour tous. Moins tu te donnes à la parole de Dieu, moins il y aura de progrès visibles. C'est aussi simple que ça. Dieu, et ça c'est la bonne nouvelle, nous a donné tout ce qu'il faut pour réussir. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné sa parole et c'est tout ce dont nous avons besoin pour réussir. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est la volonté claire du Seigneur. Je veux que vous alliez et que vous portiez du fruit. Si on est persuadé qu'il le veut, si on le veut nous aussi, ça va se produire. Je veux que vous alliez. Mais pour ça, pour être persuadé qu'il le veut, il faut qu'on s'appuie sur ce genre de paroles, sur ce genre de versets. Si on ne médite pas là-dessus, on va arriver là, on va dire, est-ce que le Seigneur veut vraiment que j'intervienne là? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux que je me taise? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux qu'on attende encore longtemps? Jean 15, 16. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. À nous de prier pour que le Seigneur nous rende utilisables, de prier pour que, avec l'aide du Saint-Esprit, nous puissions comprendre sa parole, nous puissions nous baser sur elle. Et nous prenons la décision, mais le Saint-Esprit nous aide. Notre part, c'est juste de dire, oui, je le veux, Seigneur. Je veux porter du fruit pour toi. Je veux répondre à ton appel. Bien sûr, je suis content, même si c'est 30. Mais je préfère vouloir 60 et je préfère vouloir 100. Parce que 100 nourrit plus de personnes que 30. Alors moi, je vous propose, pour terminer, de passer à un petit exercice pratique. On va juste faire une prière commune. Donc je vais lire deux passages. Et je vous incite à le faire aussi pour vous, chez vous. Mais là, on va le faire ensemble maintenant. Bien, vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Éphésiens au premier chapitre. Et nous allons prier une prière qui est selon Dieu, puisque c'est une prière que Paul a priée, poussée par l'Esprit. Donc du verset 17 au verset 23, vous pourrez méditer ce passage. Il y a un deuxième Ensuite, qui est Éphésiens 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. Et ce que je vous propose, c'est je vais lire et vous allez répéter, si vous en êtes d'accord, si vous le voulez. Et on va peut-être changer un petit peu les mots pour que ça dise, non pas qu'il illumine les yeux de votre cœur, mais qu'il illumine les yeux de mon cœur. Je pense que ça ne va pas changer, on ne va pas faire offense à l'Écriture en disant ça. Mais en tout cas, que ce soit vraiment une prière de notre cœur, de vouloir par la foi rentrer dans ce que Dieu veut pour nous. Vous en êtes d'accord ?
Oui.
Amen.
Et puis vous retenez ça et vous le faites, et vous plantez ces paroles dans votre cœur. Seigneur, je veux d'abord te bénir pour ta parole, je veux te remercier parce qu'elle est vivante. Tu nous dis, Seigneur, que tes paroles sont esprit et vie, et c'est dans ta vie, Seigneur, et c'est selon ton esprit que nous voulons prier, Seigneur. Amen. Tu connais nos cœurs et nous voulons avoir une prière de foi, maintenant même, tous ensemble, parce que nous désirons obéir à ce que tu nous dis. Nous désirons aller et porter du fruit comme tu le veux. Et Seigneur, le désir de nos cœurs, c'est de porter le plus de fruits possible. Aide-nous à ouvrir nos cœurs, Seigneur. Amen.
Amen.
Seigneur Jésus-Christ.
Seigneur Jésus-Christ.
Merci de me donner un esprit de sagesse.
Merci de me donner un esprit de sagesse.
De révélation.
De révélation.
Dans ta connaissance.
Dans ta connaissance.
Illumine les yeux de mon cœur.
Illumine les yeux de mon cœur.
Pour que je sache quelle est l'espérance.
Pour que je sache quelle est l'espérance
qui s'attache à mon appel.
Qui s'attache à mon appel.
Et quelle est la richesse de la gloire.
Et quelle est la richesse de la gloire
de ton héritage que tu réserves aux saints.
De ton héritage que tu réserves aux saints.
Et je rajoute, et je suis saint.
Et je suis saint.
Et quelle est envers moi qui crois.
Et quelle est envers moi qui crois.
L'infinie grandeur de ta puissance.
L'infinie grandeur de ta puissance.
Qui se manifeste avec efficacité.
Qui se manifeste avec efficacité.
Par la vertu de ta force.
Par la vertu de ta force.
Tu l'as déployé en Christ.
Tu l'as déployé en Christ.
En le ressuscitant des morts.
En le ressuscitant des morts.
Et en le faisant asseoir à ta droite dans les lieux célestes.
Et en le faisant asseoir à ta droite dans les lieux célestes.
Au-dessus de toute domination.
Au-dessus de toute domination.
De toute autorité.
De toute autorité.
De toute puissance.
De toute puissance.
De toute dignité.
De toute dignité.
Et de tout nom qui peut être nommé.
Et de tout nom qui peut être nommé.
Non seulement dans le siècle présent.
Non seulement dans le siècle présent.
Mais encore dans le siècle à venir.
Mais encore dans le siècle à venir.
Amen.
Amen.
Et maintenant, on va faire une deuxième prière. Éphésiens 3, 14. Père, je fléchis les genoux devant toi.
Père, je fléchis les genoux devant toi.
Afin que tu nous donnes.
Afin que tu nous donnes.
Ou que tu me donnes. Selon la richesse de ta gloire.
Selon la richesse de ta gloire.
D'être puissamment fortifié par ton esprit.
D'être puissamment fortifié par ton esprit.
Dans l'homme intérieur.
Dans l'homme intérieur.
En sorte que Christ habite dans mon cœur.
En somme, il habite dans mon cœur
par la foi,
par la foi,
étant enraciné et fondé dans l'amour,
étant enraciné et fondé dans l'amour,
et que je puisse comprendre,
et que je puisse comprendre
avec tous les saints,
avec tous les saints,
quelle est la largeur,
quelle est la largeur,
la longueur,
la longueur,
la profondeur,
la profondeur,
et la hauteur,
et la hauteur,
et connaître l'amour de Christ,
et connaître l'amour de Christ,
qui surpasse toute connaissance,
qui surpasse toute connaissance,
en sorte que je sois,
en sorte que je sois,
rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu.
Rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu.
Amen.
Amen.
La bonne nouvelle, c'est que Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Jésus, je te bénis pour ta parole, je te bénis pour la vérité de ta parole, parce que tu es la vérité. Seigneur, tu as vu nos cœurs, tu connais nos cœurs. Et nous prions simplement pour être illuminés par toi. Nous avons et nous désirons ouvrir nos cœurs jour après jour à ta parole, à te recevoir, à t'entendre, à répondre à ton appel. Alors merci Seigneur parce que tu nous dis que lorsque nous prions selon ta volonté, tu nous entends et tu nous réponds.
Merci.
Merci Seigneur parce que nous savons que tu as répondu à cette prière et à ces prières. Amen.
Amen.
Amen. Amen.